C'est bon? D'accord. Ok. Écoutez, je vous remercie hein, d'abord de cette nouvelle invitation. On entend il y a de la résonance là. Oui. Pour moi, oui, il y a de la résonance. Merci Michel aussi de cette invitation qui fait suite à une venue il n'y a pas très longtemps, je crois, c'était au printemps, sur Descartes, je crois, et la politique. Donc il va être question de politique, mais pas de Descartes, c'est même plutôt d'un anti-Descartes dont je vais vous parler. C'est de Hobbes, je ne sais pas si vous savez qui est Hobbes d'une façon générale, je pense que oui.
Je crois que ce n'est pas inutile de
bon,
le rappeler.
Bon, d'accord. Alors je vais le rappeler. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes est un philosophe anglais qui est né en 1588 et qui est mort très longtemps après, il a eu une très longue vie, en 1680 ou 70, 79 peut-être, 79, 91 ans, voilà. Une œuvre, ouais. Une œuvre abondante, très abondante et très multiple. Mais je crois que, Michel, tu as parlé déjà de Hobbes et de l'épistémologie, la métaphysique, donc je vais me borner à l'anthropologie et à la politique. Parce que, comme je viens de vous le dire, il y a de la résonance, comme je viens de vous le dire, Hobbes est l'auteur d'une œuvre multiple, c'est-à-dire que ça n'est pas quelqu'un qui a tout de suite, comme beaucoup de grands philosophes, eu en tête l'idée de son système, mais c'est quelqu'un qui l'a construit patiemment, et à travers plusieurs étapes. Ce qui ne l'a pas empêché d'avoir d'autres activités qui sont des activités d'historien, des activités de traducteur, il a beaucoup traduit du grec notamment, des activités de précepteur, il a été très longtemps précepteur du comte de Devonshire, et Hobbes est un homme qui a habité son temps beaucoup plus que beaucoup de philosophes habituels. Pourquoi ? Parce que il a suivi de très près l'histoire politique et les événements de son siècle. Vous savez, l'apparition de Cromwell, la mort du roi, la révolution, ce qu'on a appelé la révolution anglaise. Il a suivi ça avec beaucoup d'intérêt, mais encore avec encore plus d'inquiétude que d'intérêt. Et on peut peut-être considérer que les événements d'Angleterre, à l'époque de 1640 à peu près, entre 1640 et 1650, constituent comme le déclenchement, ça résonne beaucoup hein, dans mes oreilles. Je peux pas prendre un micro baladeur hein, plutôt qu'un micro fixe.
Mais ne vous inquiétez pas du micro, on vous entend.
Oui, mais je m'inquiète pour moi parce que ça sonne, c'est pas pour le micro. Comment ? Peut-être baisser un petit peu, oui, voilà. C'est bon comme ça ? Oui, c'est peut-être mieux. D'accord, merci. Donc, je disais que les événements d'Angleterre, la révolution anglaise, l'apparition de Cromwell, la violence qui s'est emparée de l'Angleterre, a été pour Hobbes un phénomène très déclencheur qui l'a convaincu qu'il fallait d'urgence réfléchir à ce qu'étaient les fondements de la vie civile, c'est-à-dire au fond de la société en général, et donc de la politique. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Hobbes a voulu, c'est ses mots, être à la politique, à la science politique, ce que Galilée avait été à la science de la nature. Galilée, bon, on va pas partir là-dedans, mais Galilée a été celui qui a changé complètement les catégories à travers lesquelles on pensait la nature, qui étaient en gros les catégories d'Aristote, de la scolastique. Et au fond, Galilée, c'est le premier qui a découvert des lois dans la nature, et des lois formelles, des lois qui sont susceptibles d'être mathématisées. Ça a beaucoup marqué les esprits, et chacun a voulu imiter Galilée dans son ordre. Et Hobbes a voulu l'imiter dans le domaine politique. Pourquoi ? Parce qu'il pense que, jusqu'à présent, la philosophie politique a été non pas une science de la politique, mais une sorte de moralisation, une sorte de discours un petit peu métaphysique qui non seulement ne correspond pas à la réalité, mais donne aux esprits qui écoutent les philosophes des idées fausses. Donc Hobbes pense que la philosophie politique a fait beaucoup plus de mal à la politique qu'elle n'en fait de bien. Et que par conséquent, il faut substituer à cette philosophie, au fond, où chacun donne son avis et ses préférences, il faut substituer à cette philosophie une véritable science. Alors évidemment, une science adaptée à l'objet qu'est la politique, mais une science au sens où il ne faut pas mettre des jugements de valeur, il ne faut pas donner des préférences, il faut essayer de voir ce qui conduit nécessairement les hommes à constituer des sociétés politiques et qu'est-ce qu'il est nécessaire d'avoir, de faire, de promettre, etc., quand on appartient à une société politique. Vous noterez le caractère très vague de la société politique. C'est pas à telle société politique, c'est pas à telle époque, c'est de tout temps et en tout lieu. Par conséquent, la politique de Hobbes, la science politique de Hobbes, a autant de généralité ou d'universalité que la géométrie. C'est vraiment une science abstraite, générale et universelle. Vous voyez, si on compare ça, par exemple, à Machiavel, un bon siècle avant, il n'y a rien de commun, même si les conséquences peuvent être comparables, même si la vue, la vision de la politique peut être comparable chez l'un et chez l'autre, en fait, il n'y a rien de commun parce que c'est pas du tout la même méthode. La méthode de Machiavel est une méthode historique. Ça consiste à lire les anciens, lire notamment Tite-Live, Salluste, César, etc., Tacite énormément, et de commenter au fond cela. Hobbes ne commente personne. Autrement dit, tout se passe pour Hobbes comme si personne avant lui n'avait écrit sur la politique. C'est un petit peu symétrique que de Descartes. Descartes aussi, c'est comme si personne avant lui n'avait écrit en métaphysique ou en science. Eh bien, il y a un côté cartésien chez Hobbes. De ce point de vue-là, parce que d'un autre point de vue, il est complètement opposé à Descartes. Ce sont deux adversaires acharnés. Ils se sont rencontrés, ils se sont critiqués, et Descartes avait pas mal de réserves et de prévenants. Il était assez prévenu, si vous voulez, contre Hobbes, contre l'anglais, comme il l'appelle. Bon, pour des raisons qui vont apparaître dans la suite de mon exposé. Donc, je reviens à la formation de Hobbes, dont je ne vais pas parler, mais aux étapes de sa théorie politique. On ne peut pas dire que Hobbes ait commencé par la théorie politique. Il a commencé, encore une fois, par la science. Il a notamment fait beaucoup de traités d'optique. Il a fait des traités d'histoire, etc. Mais son objectif, c'était de partir de la nature humaine, de l'observation de la nature humaine, ce qu'on appelle l'anthropologie, mais on l'appelle ça aujourd'hui, on l'appelle pas comme ça à l'époque, de partir donc de la nature humaine, de connaissance scientifique de la nature humaine, pour parvenir par étapes à l'idée, enfin à la société politique, de l'homme à la société. Voilà le trajet de Hobbes. Et au fond, ce trajet correspond mot pour mot aux grands ouvrages de Hobbes. Les grands ouvrages de Hobbes sont le De homine, de l'homme, où on traduit aussi de la nature humaine, le De corpore, au sujet des corps physiques, mais surtout, dans le domaine politique, le De cive, et vous remarquerez, si vous voulez, la succession, comme ça, De corpore, De homine, De cive, à part que c'est dans l'autre sens, mais ça n'a pas d'importance. De cive, donc le citoyen, et le sommet de son œuvre, le Léviathan, 1651, dans la version anglaise, et Hobbes, 20 ans après, en donnera une version latine. Le Léviathan, je vais parler que du Léviathan, car le reste... Mais le Léviathan, en un sens, hérite, en quelque sorte, de toutes les réflexions et les travaux antérieurs faits par Hobbes sur la question de la nature de l'homme. Qu'est-ce que l'homme, non pas d'un point de vue métaphysique, mais d'un point de vue physique? Hobbes est d'abord un physicien. Un physicien au sens où il ne connaît de cause que naturelle et il ne connaît d'explication que scientifique. Le reste, c'est du bavardage pour lui. Donc, en fait, il s'emploie à une connaissance de la nature humaine sur la base de la physique de son temps, d'où il essaye d'extraire des principes, des méthodes qui vont lui permettre de comprendre l'homme, non pas comprendre au sens moral du terme, au sens éthique, comprendre l'homme comme on comprend, si vous voulez, les planètes, les mouvements de la mer, des sables, etc., etc., comme des mouvements naturels. L'homme est un être naturel pour Hobbes. Vous allez dire, une grande découverte, l'homme est un être naturel. Oui, c'est pas une grande découverte, mais c'est une décision métaphysique très importante. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça veut dire que l'homme ne doit pas être considéré comme il l'est dans la plupart des philosophes du temps de Hobbes, au fond comme un être qui a fondamentalement rapport à Dieu à travers une religion, à travers une culture, à travers des choses comme ça. Hobbes prend l'homme nu, si je puis dire. Nu, c'est-à-dire comme s'il sortait des mains de la nature. Et donc, on s'est beaucoup inquiété de savoir, par exemple, où était le péché originel chez l'homme de Hobbes. Il n'y en a pas. Plus exactement, Hobbes ne peut pas intégrer cette hypothèse à son observation et à sa description de l'homme. Par conséquent, Hobbes décrit l'homme comme vraiment un être naturel. Et poursuivant cette description, il va justement pouvoir décrire ou montrer comment fonctionne la société, mais comme si c'était, au fond, là aussi, une chose naturelle. Bien qu'elle ne soit pas naturelle, elle est construite par les hommes. Mais naturelle au sens, si vous voulez, où il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de choses qu'il faudrait savoir par le biais d'une connaissance historique ou religieuse. Non, c'est à plat que Hobbes construit et étudie la chose politique. Alors de l'homme, il faut quand même dire quelques mots, ça va être mon premier point. Il faut falloir dire quand même quelques mots au sujet de la connaissance de l'homme que Hobbes croit pouvoir tirer de la physique de son temps, qui est encore une fois une physique galiléenne, c'est-à-dire une physique qui est fondée essentiellement, on peut dire, si vous voulez, sur le mouvement des corps, le choc des corps, l'attraction, en deux mots, le fait de tirer, c'est l'attraction, l'autre, c'est plus tard. Donc, en fait, c'est une physique qu'on pourrait appeler mécaniste. Bon, le principe de cette physique, c'est que tout se fait par mouvement dans la nature. Bon, tous les corps, mais aussi tous les êtres qu'on appelle vivants. Et c'est pour ça que Hobbes distingue deux types de mouvements. Il y a, dit-il, les mouvements vitaux, qui sont des mouvements qui ne parviennent pas, en quelque sorte, à la conscience de ceux qui vivent. Les mouvements vitaux, c'est le mouvement du sang, c'est le mouvement du cœur, c'est les battements du cœur, c'est toute la machine, si vous voulez, du corps, la machine corporelle, on pourrait dire ça comme ça. Ça, ce sont ce qu'il appelle les mouvements vitaux. Mais à côté des mouvements vitaux, et c'est le plus intéressant, il y a ce qu'il appelle des mouvements animaux. Des mouvements animaux. Qu'est-ce que c'est que les mouvements animaux ? Animaux, il faut entendre anima. Anima, c'est l'âme, mais c'est l'âme au sens de ce qui cherche quelque chose. Donc, c'est déjà plus le corps mécanique, c'est la vie, en quelque sorte, c'est-à-dire, et pour Hobbes, le propre de la vie, le propre des êtres vivants, c'est de chercher quelque chose, toujours, de chercher toujours quelque chose, de n'être jamais satisfait de ce qu'ils ont, non pas parce que ils sont mal faits, ou qu'ils sont contrefaits, mais parce que, si vous voulez, la vie est de l'ordre de la concurrence et de la lutte. Bien avant Darwin, d'une certaine manière, Hobbes pose comme condition d'intelligibilité de l'homme l'idée que l'homme doit, pour vivre, doit lutter. L'homme et tous les animaux, bien sûr. Tout le monde lutte. Voilà. Tout dans la nature hobbesienne, on dit hobbesienne pour l'adjectif, hobbesienne ça fait un peu vilain, donc on dit hobbesienne, ça a été une décision linguistique qui a été adoptée il y a quelques décennies. Donc, tout dans la nature est lutte, vie, ou pour utiliser un terme qui est un terme absolument central dans sa philosophie, tout est effort. Tout est effort. Effort, Il le dit en anglais, endeavor. En latin, conatus. L'effort est le premier mot, et peut-être le mot le plus fondamental de la philosophie de Hobbes. Ça veut dire, si vous voulez, que vivre, c'est s'efforcer de continuer à vivre. Ça veut dire que désirer quelque chose, c'est s'efforcer de l'avoir, de se l'approprier. En un sens, tous les mouvements vitaux, tous les mouvements animaux, pardon, je ne parle pas des mouvements vitaux, tous les mouvements animaux sont des efforts. C'est-à-dire sont des tensions pour acquérir quelque chose, non pas parce qu'on désire toujours plus, mais parce qu'on ne peut pas ne pas désirer toujours plus. En un sens, si vous voulez, c'est une sorte d'adaptation du principe d'inertie à la nature humaine. Le principe d'inertie stipule que tout corps reste dans l'état dans lequel il est tant qu'aucun autre corps ne vient s'opposer à son mouvement ou à son repos. Eh bien, d'une certaine manière, il en est de même dans l'homme. Il cherche à rester toujours dans le même état, à se conserver. Mais pour se conserver, il faut qu'il accélère. Donc, au principe d'inertie, on adjoint le principe d'accélération. Donc, il faut qu'il accélère, c'est-à-dire qu'il faut qu'il... On va le voir dans l'anthropologie, c'est une détermination fondamentale. Il faut qu'il acquiert toujours plus de puissance ou de pouvoir pour se maintenir en vie. Voilà. En un sens, si vous voulez, l'univers de Hobbes, et on comprend avec la guerre civile qui a éclaté en Angleterre, on comprend, si vous voulez, que le souci de Hobbes, et c'est plus un souci, c'est une obsession chez lui, le souci de Hobbes, ce soit justement d'assurer la sécurité dans un univers qui est continuellement concurrentiel, dans un univers qui est continuellement menaçant. Et donc, si vous voulez, pour Hobbes, le mobile le plus puissant de l'homme, c'est le désir de la sécurité. Et en ce sens, la peur constitue, si vous voulez, quelque chose de fondamental dans la nature humaine. Les hommes ont peur, non pas parce qu'ils sont craintifs, mais parce qu'ils sont tous, d'une certaine manière, livrés à une lutte pour la vie, comme dira Darwin plus tard, et que cette lutte pour la vie ne permet pas, si vous voulez, d'appliquer les conseils gratuits que donnent les philosophes en disant « calme-toi, on en a toujours assez, etc., etc., sois tranquille, etc. Ouais. » Hobbes dirait toujours dans ces cas-là qu'il commence par le faire et on les suivra. C'est pas la peine de nous raconter des histoires. C'est ça, au fond, le matérialisme de Hobbes. Les leçons de morale, c'est des histoires. La vérité ou la réalité, c'est la vie. Et la vie, c'est la lutte. C'est la lutte continuelle. Voilà l'état, très rapidement esquissé, au fond, de la nature humaine pour Hobbes. Et vous voyez bien que cette nature humaine, elle n'a rien de particulièrement supérieur à la nature des animaux ou quelque chose comme ça. L'homme est un animal pour Hobbes. C'est un animal comme un autre. Simplement, c'est un animal beaucoup plus dangereux que les autres. La célèbre formule que Hobbes reprend, d'ailleurs, à un auteur de l'Antiquité, à Terence, l'homme est un loup pour l'homme, au fond, est une formule adoucie. Parce que, si vous voulez, s'il n'était qu'un loup, ça irait. Mais il est bien plus puissant qu'un loup, et par conséquent, bien plus dangereux. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, si vous voulez, c'est que la vision de Hobbes, sans être une vision pessimiste, est une vision, si vous voulez, qui se veut réaliste, c'est-à-dire qui est centrée sur la chose qui menace le plus l'existence humaine. Ce qui menace le plus l'existence humaine, pour le dire en un mot rapidement, si vous voulez, c'est l'autre. Ce qui menace le plus mon existence, c'est l'existence de l'autre. C'est pas les lions, les abeilles et les fourmis qui menacent mon existence. C'est les autres hommes. Pourquoi ? Eh bien, parce que, à la différence d'un certain nombre de sociétés animales, les sociétés humaines, si vous voulez, ne sont pas faites par la nature. Par conséquent, elles n'ont pas une régulation interne qui fait que, dans les sociétés animales, chacun fait son boulot et personne ne discute. Bon, il y a une raison déjà de fond, mais bon... il n'y a pas de langage, mais dans les sociétés humaines, tout le monde discute, c'est-à-dire dispute. Autrement dit, l'homme, qui est un être de nature, un être naturel, si vous voulez, a des capacités qui font que, en un sens, si vous voulez, son existence est bien plus menacée que celle des autres animaux. Et si son existence est menacée, c'est parce que la nature ne lui a pas donné une régulation qui fait qu'il pourrait vivre en société, d'une certaine manière, sans se rendre compte qu'il vit en société. C'est-à-dire naturellement. Non, l'existence sociale, la vie sociale n'est pas naturelle. Voilà le premier point. Le deuxième point de mon exposé, c'est alors justement, si la vie sociale n'est pas naturelle, comment on concevoir la genèse ? Hein ? D'où elle vient ? Pourquoi une société ? Bien, la réponse, elle est dans ce que je viens de dire, au niveau de la nature humaine. Pourquoi une société ? Parce que l'homme, d'une certaine manière, n'est pas, par lui-même, naturellement, équipé, en quelque sorte, pour s'entendre avec les autres. À la différence des animaux, par exemple, des sociétés animales, où les fourmis, les abeilles, ce qu'on appelle les animaux sociaux, si vous voulez, sont des animaux régulés, en un sens. C'est le groupe qui régule l'individu. Là, au contraire, et c'est ça l'individualisme fondamental de Hobbes, l'homme, c'est d'abord et avant tout, et uniquement d'ailleurs, un individu. C'est-à-dire un individu, c'est-à-dire un être qui est pour lui et qui, d'une certaine manière, et c'est normal, il n'y a pas de péché là-dedans, ne pense qu'à lui. Vous voyez, Hobbes pourrait dire, si vous voulez, comme un auteur contemporain, si je ne pense pas à moi, qui va penser à moi ? Donc, on n'a pas le choix. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que la philosophie de Hobbes, c'est une philosophie de la nécessité. On n'a pas le choix. Bon. Alors, donc, voilà notre état naturel. C'est un état de manque, c'est un état de peur, c'est un état de concurrence, c'est un état de méfiance. Voilà. Voilà, au fond, où, d'une certaine manière, voilà, au fond, où nous sommes et où nous serions si nous n'étions que des êtres naturels. C'est une hypothèse, parce qu'on n'est pas des êtres, on est des êtres sociaux. Mais tout ce que veut montrer Hobbes, c'est que justement, l'être social de l'homme ne résulte pas de la nature, mais au contraire, il est fait pour contrer cette nature, pour mettre des limites à cette nature. Et en ce sens, la société, c'est ce qui va, de l'extérieur, en quelque sorte, réguler les pulsions, les passions, les désirs qui sont ceux des hommes à l'état de nature. Alors, j'ai prononcé un mot terrible, c'est celui d'état de nature. Car au fond, la plupart du temps, si vous voulez, les souvenirs ou les connaissances qu'on a de Hobbes, c'est justement l'état de nature, c'est l'idée de l'état de nature. Il faut bien, pour rentrer dans ce concept, qui est effectivement fondamental chez lui, il faut bien prendre garde à d'abord souligner le caractère hypothétique de l'état de nature, de ce concept. C'est un concept, voyez. C'est comme le concept de mouvement uniformément accéléré chez Galilée. C'est une hypothèse. Il est bien évident, si vous voulez, qu'on ne peut pas trouver d'exemple d'un mouvement uniformément accéléré, sans frottement, sans etc. Donc, c'est une hypothèse, c'est une sorte de cadre de pensée qui va nous permettre de mieux comprendre les phénomènes réels. On a besoin, si vous voulez, du fictif pour comprendre le réel. On a besoin de la fiction pour comprendre le réel, parce que c'est plus pur, c'est plus abstrait. C'est moins hérissé d'accidents. Bon. Alors, l'état de nature. Comment Hobbes en vient à cette idée d'état de nature ? D'abord, c'est une idée classique chez tout le monde. Mais la démarche de Hobbes est plus originale que celle des gens qui en ont déjà parlé de cet état de nature. Hobbes dit, au fond, si l'on considère l'homme à l'état naturel, c'est-à-dire indépendamment des lois et des contraintes sociales, etc. Si on le considère à l'état, c'est-à-dire si l'homme était, au fond, purement et simplement livré à lui-même, comme s'il sortait de la nature, des mains de la nature, s'il était purement et simplement livré à lui-même. Au fond, chacun d'entre nous, chacun utiliserait, et à juste titre, tous les moyens qui lui semblent bons pour justement se conserver en vie, se défendre. Et si, par exemple, l'un d'entre nous juge que la meilleure défense, c'est l'attaque, comme on dit, au fond, rien ne l'interdirait de recourir à des moyens offensifs s'il pense que c'est seulement par ces moyens qu'il peut se protéger. En un sens, si vous voulez, l'individu, à l'état de nature, a tous les droits. C'est-à-dire, il a le droit de faire tout ce qu'il pense être nécessaire à sa conservation. Rien ne s'oppose à ça. Ni la loi de Dieu, dont il n'est jamais question dans ces chapitres-là, jamais, jamais, pas une fois, ni l'enseignement de Dieu, ni la religion, ni l'exemple, ni quoi que ce soit, puisque c'est un état de nature. C'est-à-dire, c'est un état hors société. Encore une fois, c'est une hypothèse, c'est une fiction. C'est pas une réalité. Mais ça va lui permettre de beaucoup mieux comprendre pourquoi, justement, la société est comme elle est. Quel est le fondement de la société? C'est ça qui va lui permettre de le comprendre. C'est en quelque sorte, c'est en enlevant la société qu'on permet de comprendre, c'est en mettant entre parenthèses la société qu'on permet de comprendre sa fonction. À quoi elle sert? Quelle est son utilité? Et quels sont, finalement, les rapports des hommes les uns avec les autres dans un état civil, comme on disait à l'époque, et pas social, c'est-à-dire dans un état qui s'oppose à l'état de nature. Mais je ne suis pas encore là. Je reviens encore un peu à cet état de nature. Alors, dans cet état de nature, encore une fois, qui n'a peut-être jamais existé, qui n'a sans doute jamais existé, mais qui n'est pas, si vous voulez, un état de sauvagerie, au sens où les hommes se baladeraient nus dans les forêts, descendraient des arbres, etc., un peu comme des singes, ou pas loin, en tout cas, etc. C'est pas du tout à ça que Hobbes fait référence à son état de nature. Au fond, je crois que le meilleur exemple qu'on peut donner de l'état de nature pour Hobbes, c'est la guerre civile d'Angleterre. Et d'ailleurs, vous pouvez prendre tous les exemples que vous voulez, la Syrie, le Liban, Dieu sait qu'il n'en manque pas, vous pouvez prendre tous les exemples que vous voulez, si vous voulez, au fond, de société humaine dans laquelle le pouvoir ne peut plus jouer un rôle coercitif. C'est-à-dire que chacun peut imposer sa loi, par des groupes ou par des... voilà. Eh bien, l'Angleterre de Hobbes, de la Révolution, de la guerre civile, c'est d'une certaine manière l'état de nature. L'état de nature, c'est pas un état dans lequel l'homme est un sauvage, parce que s'il était un sauvage, ce serait pas très gênant, ce serait pas dangereux. Un sauvage n'a pas beaucoup de force de frappe, si je puis dire, les conflits entre sauvages, dans un état de nature, si vous voulez, sont des conflits, au fond, d'un individu à un autre, ou d'un groupe d'individus à un autre, mais ça menace pas la civilisation, d'abord parce qu'il n'y a pas de civilisation, et ça menace pas des millions d'hommes, parce qu'il n'y a pas de millions d'hommes. Donc, en fait, si l'état de nature, c'était ce dont parlent les poètes, un état un peu très proche de la nature, il n'y aurait pas de problème. Mais le problème, c'est que l'état de nature, c'est d'une certaine manière ce qui résulte de la déficience du pouvoir. C'est-à-dire que c'est là où le pouvoir est incapable, impuissant à contenir les hommes, alors les hommes se trouvent dans l'état de nature. Voilà, on se trouverait dans l'état de nature si, par exemple, je ne sais pas, mettons des choses, si on se trouverait dans l'état de nature si, au fond, y avait pas, nous ne respecterions aucune loi, aucune règle, nous vivrions, si vous voulez, dans un pur présent, c'est-à-dire au fond dans une sorte de rapport contingent, arbitraire, imprévisible, les uns avec les autres. Ce serait ça, un état de nature. Voyez. Voilà. Et au fond, et surtout, où nous ne pourrions pas en référer à une autorité supérieure pour régler les différends que nous pourrions avoir. Et par conséquent, ces différends, on les réglerait. Ben voilà, vous voyez à peu près comment, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. On les réglerait, si vous voulez, par la violence. Alors, il ne faut pas penser que l'homme est un animal violent pour Hobbes. Pas du tout. L'homme est un animal craintif. L'homme est un être craintif. Mais c'est parce qu'il est craintif qu'il peut être violent. C'est parce qu'il a peur de l'autre qu'il peut être violent. C'est-à-dire qu'il peut prendre les devants et voilà. Il faut toujours revenir à ça. Le système de Hobbes n'a rien à voir, si vous voulez, avec ce qu'on appelle les philosophies de la puissance, la volonté de puissance, le désir de puissance, rien à voir, c'est tout le contraire. L'homme est un être, pour Hobbes, au fond, faible et impuissant. Mais justement, c'est cette impuissance qui lui donne peur, qui le rend peureux, si vous voulez, qui le rend craintif, et c'est cette crainte qui risque de le rendre violent. Comme si, au fond, la violence venait toujours, non pas d'un excès de puissance, mais au contraire, d'un défaut de puissance. Voilà l'idée. Alors, qu'est-ce qui se passerait? Ça, je ne peux pas résister, si vous voulez, au plaisir de mentionner ce tableau classique chez Hobbes. Qu'est-ce qui se passerait si, au fond, nous n'obéissions à aucun pouvoir, et donc aucune loi, si nous étions dans une sorte d'état de nature, c'est-à-dire, au fond, où chacun d'entre nous ne réglerait sa vie que selon ce que Hobbes appelle, mais en conformité avec toute la tradition, le droit naturel, son droit naturel. Qu'est-ce que c'est que le droit naturel? C'est le droit qu'a chacun, selon la nature, le droit qu'a chacun de veiller à la conservation de lui. Ça, c'est quelque... Donc vous voyez bien, c'est pas vraiment un droit, c'est une latitude, c'est une potentialité, le droit de nature. Vous voyez, c'est très intéressant de voir que le droit de nature, chez Hobbes, n'est absolument pas normatif. Si vous regardez les stoïciens, si vous regardez même Grotius, qui était le grand penseur de la politique pratiquement contemporain de Hobbes, vous voyez que le droit de nature implique toujours quelque chose comme une norme, une règle des uns vis-à-vis des autres, quelque chose de moral malgré tout, même si c'est pas, ça ne se réduit pas à la moralité. Vous voyez, on n'a pas le droit, par exemple, d'attaquer un innocent, de punir un innocent, il faut qu'on veille au salut des enfants. Vous voyez, il y a des choses qui semblent être naturelles, au fond. Des devoirs qui semblent être naturels. Et c'est en ce sens qu'a fait partie le droit de nature. Rien de tel chez Hobbes. Le droit de nature ne comporte aucun devoir. Il ne comporte que des droits, que des potentialités. Pour une raison de fond que je n'ai pas encore énoncé, mais que je vais pas cesser, si vous voulez, de renforcer dans la suite, pour une raison de fond, c'est qu'au fond, si vous voulez, pour Hobbes, un devoir, le fait d'avoir un devoir, implique que si on le fait pas, on soit puni. Un devoir dont l'ignorance n'est suivie d'aucune sanction, bon, c'est une gentille maxime, une gentille pensée, hein, on peut toujours dire ça, mais ça n'a aucun effet. Vous voyez, pour parler de devoir, il faut qu'il y ait une obligation. Pour qu'il y ait une obligation, il faut que quelqu'un nous y oblige. Et pour que quelqu'un puisse nous obliger à quelque chose, il faut que, si on se soustrait à cette obligation, il y ait une punition, un châtiment. Sinon, c'est verbal. Sinon, l'idée de devoir est verbale. Donc, revenons à notre état de nature. Dans l'état de nature, il n'y a aucun devoir des uns vis-à-vis des autres. C'est un peu difficile, hein, mais c'est au fond un peu l'image un petit peu fruste, si vous voulez, de la société libérale. Au fond, tout se passe comme si vous voulez, les individus n'avaient aucun devoir les uns envers les autres. Ils ont des droits, mais pas de devoirs. C'est ça le libéralisme. Hein. Ils ont des droits, mais pas de devoirs. Pas de devoir de solidarité, pas de devoir d'entraide, pas de devoir de charité, pas de devoir. Tout ça est exclu chez Hobbes. C'est pas qu'il pense que c'est pas bien d'être charitable. Il pense que c'est très bien. Mais il pense que ce serait encore mieux si on y était obligé. Hein. Parce que si on n'est pas obligé, vous pouvez toujours compter sur la charité d'autrui. Peut-être qu'il se montrera charitable, mais peut-être que non. Et sinon, ben voilà, vous n'aviez qu'à vous en prendre à vous-même. Rien ne vous a dit que c'était un droit, que vous aviez droit d'attendre la charité d'autrui. Donc en fait, c'est une société très dure, comme la société libérale. La société des hommes hors pouvoir, dans l'état naturel, si vous voulez. L'existence naturelle des hommes est une existence très dure, parce que je crois qu'elle est fondée sur le caractère absolument solitaire de l'individu. L'individu est un monde pour lui. L'individu est un tout pour lui, comme dit Pascal, est un tout pour lui. Et par conséquent, en un sens, si vous voulez, il ne pense qu'à lui. Mais au lieu de considérer que c'est pas bien, Hobbes considère que c'est comme ça. C'est tout. Peut-être que c'est pas bien, mais c'est pas son problème, de savoir si c'est bien ou pas. Le problème est de savoir si c'est vrai ou pas. Voilà. Si vous accordez que c'est vrai, eh ben vous lui accordez tout le reste. Si vous accordez, si vous voulez, que l'homme, par nature, c'est-à-dire individuellement, n'a aucun devoir vis-à-vis de ses semblables, c'est-à-dire qu'au fond, l'idée de semblable n'a aucun sens, hein, Si vous lui accordez ça, vous lui accordez toute la chaîne des conséquences. Parce que c'est un penseur d'une rigueur extraordinaire, comme on n'en a pas fait en matière politique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui déduit toute la chaîne des conséquences à partir, justement, de ce principe. C'est pour ça qu'il faut toujours partir de là, pour comprendre la suite. Et ça, voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que Hobbes appelle, donc la situation de l'homme à l'état de nature. Et encore une fois, c'est quand même très étrange de penser à ça, c'est comme si c'était prémonitoire, enfin, 2 siècles avant Darwin. C'est ce qu'il appelle la guerre de tous contre tous. Formule célèbre, ou la guerre de chacun contre chacun. Il y a les deux formules. La guerre de tous contre tous, la guerre de chacun contre chacun. En gros, ça revient au même quand même. Voilà ce que c'est que l'état de nature. C'est la guerre de tous contre tous. La formule est célèbre. Alors, la guerre de tous contre tous, ça ne veut pas dire, si vous voulez, que nous sommes chacun une petite armée en puissance. La guerre de tous contre tous, ça veut dire la menace de la guerre de tous contre tous. Hobbes dit, par guerre, il ne faut pas entendre l'affrontement d'armées, il faut entendre la menace de l'agression de la part des autres. Il dit, c'est comme le mauvais temps. Le mauvais temps, ce n'est pas forcément les averses et les orages. C'est des nuages qui s'accumulent à l'horizon. On dit, tiens, voilà, c'est toujours comme ça chez Hobbes, c'est la menace. Et au fond, l'homme de Hobbes, l'individu hobbesien, qui est un individu solitaire, c'est aussi un individu prévoyant. Et c'est ça qu'il a en plus par rapport aux animaux. Les animaux ne prévoient pas. L'homme prévoit. C'est-à-dire, quand il voit des nuages à l'horizon, il va se cacher. Ou il va se protéger. Il va dire, tiens, il va pleuvoir. Bon, ben, écoutez, quand il va voir une autre forme de nuage à l'horizon, c'est-à-dire un autre individu, plus ou moins d'allure, plus ou moins confiante, etc., ben écoutez, il va également se protéger. Et les moyens qu'il va utiliser pour se protéger, ben écoutez, c'est absolument de son droit de les utiliser. Donc, la guerre de tous contre tous, telle est la situation inéluctable des hommes dans l'état de nature, c'est-à-dire des hommes qu'aucun pouvoir ne peut contraindre. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir. Puisque c'est ça la définition, c'est ça la supposition. Il n'y a pas de pouvoir. Ou encore, chacun a autant de pouvoir qu'un autre. Ah oui, il faut que j'ajoute ceci. Vous allez me dire, mais il y a des plus forts que d'autres dans l'état de nature. Bien sûr qu'il y a des plus forts que d'autres. Mais est-ce qu'il y a des plus forts de telle sorte, comme dirait Rousseau, qui soient toujours forts? Est-ce que le plus fort ne va pas de temps en temps dormir, ne va pas être malade, va pas faiblir, va pas vieillir? Bien sûr que si. Donc, en fait, il n'est pas le plus fort. Donc, Hobbes devra dire, c'est bien ce que je dis. Il n'y a pas vraiment d'homme plus fort que d'autres dans l'état de nature. Parce que, et il ajoute avec son réalisme inégalable, parce que s'il y avait eu un homme dont la puissance fût irrésistible, c'est-à-dire dont la puissance s'imposerait, si vous voulez, à tous et tout le temps, d'une façon incontestable. Il n'y aurait jamais eu besoin de loi, de cas, etc., etc. Il aurait suffi. Voilà. Ben, écoutez, prenons un exemple comme ça. C'est le seul, d'ailleurs, auquel on peut penser. Dieu. Dieu n'a pas passé de contrat avec nous. Dieu ne nous a pas dit, bon, Non. Pourquoi? Parce qu'il est tout puissant. Autrement dit, la toute puissance, si vous voulez, absout d'une certaine manière tous les devoirs, dissout tout devoir et tout droit. Bon, et le problème, et Hobbes semble le regretter, c'est qu'il n'y a pas de toute-puissance chez les hommes. Il n'y a pas d'homme qui soit tout-puissant vis-à-vis des autres. Donc, d'une certaine manière, cette toute-puissance, il faut la conférer, puisqu'elle n'existe pas, naturellement. Il faut la produire. Comment produire la toute-puissance? Voilà la troisième étape de mon parcours hobbesien, de ma présentation très synoptique de Hobbes. Comment produire de la toute-puissance sur ce fond d'impuissance qu'est la situation des hommes à l'état de nature? Alors là, il ne manque pas de solution. Là, on retrouve, si vous voulez, des schémas de la pensée politique très classiques. La plupart du temps, si vous voulez, comment répond-on à cette question, c'est-à-dire comment sort-on de l'état de nature, comment finit-on l'état de nature et passe-t-on à l'état civil? Par association, par contrat, par promesse faite les uns vers les autres de se tenir tranquille, etc., etc., d'obéir aux lois, etc., etc. Hobbes connaît évidemment ça. Et d'une certaine manière, Hobbes va recourir à ce qu'on appelle, si vous voulez, un schéma contractualiste. Hein, c'est pour ça que c'est absolument pas une philosophie de la puissance ou de la violence. Hein. C'est une philosophie du droit. Et au fond, il va falloir voir comment, d'une certaine manière, si vous voulez, comment on va passer d'un état de fait, qui est l'état de nature, mais hypothétique, à un état de droit, qui est l'état civil. Car l'état civil, s'il n'est pas un état de droit, c'est immédiatement un état de nature. Qu'est-ce que c'est qu'un état de droit? C'est un état où on respecte le droit. Bon, jusque-là, ça va. Hein, c'est un état où on respecte le droit qui est établi. Bien. Le problème, si vous voulez, c'est de savoir ce qui se passe quand on ne respecte pas le droit. Et pour ceux qui ne respectent pas le droit. Parce que si nous respecterions tout, si nous respections tous le droit, il n'y aurait pas besoin de pouvoir politique. Et donc, d'où vient la nécessité de l'existence d'un pouvoir politique? De ce que, justement, s'il n'y avait pas de pouvoir, la plupart d'entre nous ne respecteraient pas le droit. Donc, pour qu'il y ait du droit, il faut qu'il y ait un pouvoir, et pas l'inverse. Hein? C'est pas, si vous voulez, il y a un pouvoir parce qu'il y a du droit. Non, il y a du droit parce qu'il y a un pouvoir. Donc, le premier mouvement, si vous voulez, que les hommes doivent faire en sortant de l'état de nature, c'est d'une certaine manière de donner le pouvoir, de produire du pouvoir, de produire une situation politique dans laquelle, justement, l'un d'entre nous, ou plusieurs d'entre nous, vont commander aux autres. Hein? Encore une fois, c'est pas naturel, ça. Je fais un tout petit excursus, une toute petite parenthèse, peut-être pour mieux faire comprendre de façon contrastive, si vous voulez, comme on dit aujourd'hui, avec des anglicismes, la situation. Situation que Hobbes connaît très bien. La situation, prenons l'exemple de Platon, dans la République est légendaire. Qui ne connaît pas la République de Platon, enfin en tout cas à l'époque de Hobbes, hein, et donc Hobbes, lui le premier. Le principe de cette république, je ne vais pas m'étendre là-dessus, le principe de cette république, c'est qu'au fond, les sociétés humaines seront toujours des sociétés malades, car Platon aime bien utiliser le vocabulaire de la maladie et la médecine, sont toujours des sociétés malades si, au fond, ceux qui doivent commander ne commandent pas, et ceux qui doivent obéir, au contraire, commandent. C'est ça la situation de la démocratie pour Hobbes. La démocratie... Pour Platon. La démocratie pour Platon... Oh, marqué, hop, je ne sais pas. La démocratie pour Platon, c'est une situation, si vous voulez, sans dessus-dessous, c'est-à-dire que c'est le monde à l'envers, en gros. C'est-à-dire que ceux qui doivent obéir commandent, et ceux qui devraient commander obéissent. Hein? Donc, en fait, la démocratie, c'est l'anarchie pour Platon. C'est l'impossibilité d'avoir un pouvoir véritable. Mais qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir véritable? C'est le pouvoir de ceux qui sont supérieurs aux autres. Le pouvoir doit revenir à ceux qui sont supérieurs aux autres. Non pas à ceux qui ont les plus gros muscles, hein, ou qui ont la plus grande force de frappe. Non, à ceux qui sont les meilleurs. Vous savez que les meilleurs, en grec, on dit « aristoi ». Hein? Donc, c'est l'aristocratie. Mais c'est pas l'aristocratie au sens héréditaire et social, c'est une aristocratie morale et intellectuelle pour Platon. Ce sont les meilleurs, si vous voulez, qui doivent commander. Les meilleurs, ça veut dire les plus sages, les plus savants, les hommes qui connaissent le bien, les hommes qui guident les autres. Qui guident les autres. Et les autres acceptent d'être guidés. Voilà une vraie société. C'est une société dans laquelle ceux qui doivent être guidés, acceptent de l'être, veulent l'être, ne s'opposent pas. Ils cherchent pas à prendre le pouvoir. Ils savent que le pouvoir, c'est pas pour eux. C'est pour ceux qui savent. C'est pour ceux qui sont supérieurs à eux. Ce schéma-là, il tient pas du tout debout pour Hobbes. Pour une bonne raison. Je vous ai dit, son abstention métaphysique, morale, religieuse, le bien, tout ça. Bon. Mais pour une bonne raison. C'est qu'en fait, dit Hobbes avec son humour à énième degré, en fait, si vous voulez, il est probable que nous soyons nombreux à penser que nous sommes supérieurs les uns aux autres. Les uns aux autres. C'est-à-dire que, en fait, on va admettre ce schéma, mais à condition, si vous voulez, de se placer, au fond, du côté, justement, de ceux qui sont supérieurs. Et qui va décider de ceux qui sont objectivement supérieurs aux autres? Hein? Qui? Personne. L'état de nature. Les coups de poing. on finira comme ça. Donc, la situation de Platon, où c'est verbal pour Hobbes. Dire que ce sont les meilleurs qui doivent commander aux autres, c'est rien dire du tout quand on ne dit pas comment sont sélectionnés les meilleurs. Hein. Qui assure que ce sont les meilleurs et comment savoir que ce sont vraiment les meilleurs? On ne le sait pas. Et donc, en fait, la situation de Hobbes, c'est la situation d'égalité des hommes les uns vis-à-vis des autres. On est tous égaux. Et ce n'est pas une pensée démocratique, c'est une pensée de l'impuissance. On est tous égaux, il faudrait presque ajouter hélas. Parce qu'aucun n'est à même de s'imposer vis-à-vis des autres. Alors, dans ce cas, si on est tous convaincus de cela, c'est-à-dire si on est tous convaincus qu'il n'y en a aucun parmi nous qui peut naturellement prendre le dessus sur les autres, naturellement, soit par sa force physique, soit par sa force intellectuelle, soit par sa supériorité morale, tout ce que vous voulez. Si on est convaincu de cela, quelle est la seule solution qui reste? La seule solution qui reste, il y a deux solutions, en fait. Il y en aurait deux, et il n'y en a que deux, d'ailleurs, dans l'histoire de la pensée politique, il n'y en a que deux. Je commence par la plus favorable à nos préjugés, pour Hobbes. Ça consisterait à dire, au fond, on va se mettre d'accord, on va s'entendre, on va s'associer, si vous voulez, au fond, pour désigner, au fond, celui qui sera le meilleur pour nous représenter et nous gouverner. Et par conséquent, celui-là sera notre représentant. C'est la solution de Rousseau dans le contrat social. Hein, c'est la solution de Rousseau, en allant vite, si vous voulez, c'est-à-dire qu'en fait, nous ne nous soumettons pas, mais nous nous associons pour être plus forts ensemble, car individuellement nous sommes faibles. Mais nous détenons le pouvoir ensemble. C'est ça la souveraineté populaire. Bon. Cette solution que Hobbes connaît, Hobbes la rejette. Parce que, à ses yeux, si vous voulez, l'idée que nous puissions ensemble constituer un pouvoir est une idée, en un sens, complètement irréelle ou irréaliste, fausse. Hein. Parce qu'au fond, seul commande celui qui a le pouvoir de commander, et au fond, cette personne ou cet ensemble de personnes, ça ne peut pas être l'ensemble de la société. Hein. L'ensemble de la société est d'une certaine manière, comment dire, l'ensemble de la société est d'une certaine manière encore à faire. Je vais venir sur ce problème tout à fait essentiel. Je vais y venir, mais avant d'y venir, je préfère donner les éléments, si vous voulez, de ce qui va être la solution de Hobbes et à ses yeux l'unique solution. Voilà. Hobbes dit. Au fond, nous voyons bien dans l'état de nature que le danger, c'est le droit naturel de chacun. C'est que chacun fait ce qu'il veut. Quelle est la seule solution? C'est de faire cesser cet état, où chacun fait ce qu'il veut. Et comment faire cesser cet état? Bien, d'une certaine manière, en renonçant chacun à tout son droit naturel, à l'exercice de son droit naturel. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à l'exercice de son droit naturel? La seule condition pour que je renonce à l'exercice de mon droit naturel, c'est que chacun d'entre nous y renonce. C'est, si vous voulez, une sorte de clause réflexe. Hein? C'est-à-dire que, en fait, ma cession de droit, hein, je cède mon droit, c'est pas un transfert, hein, c'est une cession. La cession de droit, je cède mon droit, n'est valable et nécessaire que si elle est universelle. Voilà. Donc il faut qu'en fait, que nous soyons tous d'accord, au moins sur une chose, c'est sur le fait de céder notre droit naturel. À partir de ce moment-là, au fond, le problème est extrêmement simple, c'est-à-dire que si nous nous accordons sur le fait qu'un seul d'entre nous va garder ce droit naturel, d'une certaine manière, la situation qui résulte de cette cession, elle est très simple. nous sommes tous des sujets, c'est-à-dire des gens qui obéissent, sauf un qui sera le souverain et dont la fonction est de commander au sujet. Vous voyez ? Mais l'astuce de Hobbes, c'est de dire que on n'a pas contracté avec le souverain. On n'y a pas dit « D'accord, on va obéir, mais à condition que tu sois gentil, que tu sois, hein, que tu fasses ce qu'on veut, etc., etc. Hein, un contrat. Dans un contrat, si vous voulez, vous apportez quelque chose et puis pour recevoir autre chose. » Non. Ça ne marche pas pour Hobbes. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un contrat d'association. C'est pas une association. C'est un contrat, et la chose peut paraître horrible, si vous voulez, à dire, c'est un contrat d'assujettissement. C'est-à-dire qu'on s'entend pour devenir sujet. Sujet au sens classique du terme, hein, pas au sens métaphysique du terme. Sujet, c'est-à-dire quelqu'un qui est assujetti à quelque chose. C'est-à-dire au souverain. Mais, pour Hobbes, si vous voulez, la situation de sujet ne peut pas du tout coïncider avec celle de souverain, c'est antithétique, c'est le contraire. Le sujet obéit, le souverain commande. Et il faut ajouter, et là à peu près on a le schéma si vous voulez, le sujet obéit sans condition, le souverain commande sans limite. Ben voilà, vous avez Hobbes, ça y est, je peux m'arrêter hein, en fait. C'est ça la solution politique de Hobbes. Alors après, on peut raffiner, on va le faire quand même un petit peu. J'ai encore un peu de temps. Bon, d'accord. On va poursuivre. Je vais d'ailleurs discrètement reprendre mon plan, parce que je voudrais quand même vous lire un peu quelques passages. Hein. Donc là, j'ai beaucoup parlé, mais j'ai pas fait parler Hobbes. J'ai parlé à sa place. Donc je voudrais quand même vous donner quelques éléments textuels. Très court hein, de sa théorie. Bon, donc je disais, si vous voulez, un petit peu comme ça, de façon légère, je disais, si vous voulez, que le résultat de cela, c'est une obéissance totale, inconditionnelle, et une autorité, une puissance, un pouvoir sans limite. C'est ça qu'on retient de Hobbes. À juste titre, c'est ça, effectivement. Le pouvoir chez Hobbes est absolu. Il est absolu au sens où il ne se limite pas. Au sens où il n'a pas à répondre de ses actes. C'est ça la souveraineté. Alors Hobbes est indiscutablement celui qui pousse le plus loin, si vous voulez, le concept de la souveraineté. Jamais personne n'a été aussi loin que lui dans l'absolutisme de la souveraineté. Qu'est-ce que c'est qu'être souverain, dit Hobbes ? C'est disposer du pouvoir supérieur, d'un pouvoir supérieur à celui des autres. Bon. Mais qu'est-ce que c'est que disposer d'un pouvoir supérieur à celui des autres ? Si ce n'est disposer du pouvoir total, qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir supérieur ? C'est un pouvoir qui commande à un autre. Donc si je commande à un autre, c'est pas l'autre qui commande. Donc en fait, qui a le pouvoir ? Seul a le pouvoir celui qui a tout le pouvoir. Sinon, ça marche pas. C'est ça qu'on a appelé, à tort, à mon avis, le totalitarisme de Hobbes. C'est l'idée, si vous voulez, que le pouvoir ne se partage pas, ne se divise pas, ne se fractionne pas. Vous voyez, on est habitué à dire, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir machin, il y a le pouvoir truc, bon, il y a les trois pouvoirs, c'est l'équilibre des pouvoirs dans une société démocratique. Et tous les penseurs après Hobbes vont s'atteler à cette tâche. Comment équilibrer le pouvoir ? Comment faire en sorte que le pouvoir soit pas absolu ? C'est l'unique problème de tous, de Locke, de Rousseau, de Hegel, de tous les philosophes qui se sont intéressés à la politique. Et si c'est leur unique problème, c'est parce que Hobbes leur a compliqué la vie. Hein ? Ou nous a compliqué la vie. En nous disant, avec sa brutalité, sa rigueur et sa franchise habituelle, au fond... Si vous voulez vous raconter des histoires en disant que le pouvoir, il faut le mettre entre plusieurs mains, etc., etc., très bien, moi je vous mets dans cette situation critique. Le jour où il y a un conflit, qui décide ? Alors vous allez dire, c'est par exemple, je sais pas, aujourd'hui on dira c'est le président de la République. Bon, très bien, donc c'est le président de la République qui a tout pouvoir. C'est bien ce que je dis. Le pouvoir souverain, il est unique. Il ne peut être... Alors, je dis, parce que c'est plus facile, il est dans les mains d'un seul homme. Je crois que c'est la solution de Hobbes, c'est la préférence de Hobbes. C'est qu'au fond, la monarchie est une monarchie absolue. Je crois que c'est la préférence de Hobbes. Mais c'est une préférence. Il peut admettre qu'un groupe d'hommes, comme dans une aristocratie, ait le pouvoir, une assemblée, voilà. Il peut admettre ça, mais c'est plus incommode techniquement qu'une assemblée gouverne. C'est pas impossible juridiquement, mais c'est pas très commode. Le plus commode, c'est au fond, si vous voulez, que le pouvoir soit dans les mains d'une seule personne. Vous voyez ? Et en un sens, il y a une sorte de d'avantage psychologique là-dedans. Ça veut dire que si le pouvoir est dans les mains d'une seule personne, il ne sera plus l'objet du désir des uns et des autres. Hein? Il ne sera plus soumis à la convoitise des uns et des autres. C'est un bénéfice qui n'est pas secondaire. Hein? Le fait, si vous voulez, que, en fait, seul le souverain jouisse du pouvoir et du pouvoir total, en un sens, élimine, aux yeux de Hobbes, les brigues et les rivalités, qui constituent pour lui comme un cancer dans la société. C'est-à-dire les partis politiques, les groupes de pression, c'est-à-dire chacun cherchant à justement saper le pouvoir afin de le garder, de l'avoir. Hobbes est de ce point de vue extrêmement, entre guillemets, réaliste. C'est-à-dire que si on critique le pouvoir de celui qui l'a, ou l'exercice du pouvoir de celui qui l'a, c'est pour l'exercer à sa place. C'est pour être vizir à la place du vizir. Il n'y a pas d'autre motivation à la critique du pouvoir. Il n'y a pas d'autre motivation. Au fond, ça veut dire j'exercerai le pouvoir beaucoup mieux que lui. Alors, on a le droit de penser ça, mais pour Hobbes, c'est une situation, on se met dans une situation extrêmement fragile. Parce qu'à ce moment-là, au lieu que le pouvoir puisse nous défendre les uns des autres, d'une certaine manière, il sera lui-même l'objet d'une conquête, l'objet d'une discussion, l'objet d'une critique, et finalement, on risque de tomber dans l'état de nature. Pas forcément totalement, mais par partie. Hein? Et comme c'est ça qu'il faut éviter, ben, vous voyez, c'est pas une bonne solution. Le fractionnement du pouvoir, etc., etc. Donc, en fait, pour en revenir à l'argument central de Hobbes, les hommes n'abandonnent pas leur droit naturel en échange de quelque chose. Ils abandonnent leur droit naturel parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Parce qu'ils jugent que ce droit naturel les expose à plus de risques que le rejet de ce droit naturel. Enfin, le fait de le rejeter, la cession, quoi, comme on dit en vocabulaire juridique, de ce droit. Donc, en fait, vous voyez, il est très astucieux parce que il n'y a pas de mouvement de retour. On laisse le droit naturel, on abandonne le droit naturel, et par conséquent, d'une certaine manière, la place est vide. Hein? Supposons, si vous voulez, que nous soyons tous armés, et que par conséquent, on se méfie tous les uns des autres, parce que, comme dans les films de mafia, vous voyez, dans les réunions comme ça, au fond, qu'est-ce qu'ils font, tous mafieux qui sont, quand ils rentrent dans une réunion les uns avec les autres, armés jusqu'aux dents, etc. Ben, ils remettent leurs armes à une personne X, peu importe laquelle. On s'en fout. Hein? Savoir si elle est meilleure que les autres, si elle est... Non, ils la mettent. Donc, et ils deviennent, de ce point de vue, égaux. Et du coup, si vous voulez, c'est celui qui a ramassé les armes qui, d'une certaine manière, devient le souverain, quelle que soit sa qualité spécifique. Et ben, c'est pareil. C'est pareil. Supposons que nous soyons tous armés et que nous jetions tous nos armes avant de rentrer dans le truc pour ne pas nous entretuer. Tous sauf un. Et ben voilà, le souverain. C'est le seul qui est armé. Et qui, par conséquent, a l'usage absolument légitime de ses armes. C'est ça qu'on trouve effarant chez Hobbes. C'est le caractère absolu du pouvoir. Le caractère non limité du pouvoir. Au fond, qu'est-ce qui pourrait le limiter? Prenons les choses de ce côté-là. Qu'est-ce qui pourrait limiter le pouvoir? Un contrat? Qu'est-ce qui pourrait limiter le pouvoir? Dieu, Hobbes fait souvent remarquer que du temps de la Bible, il s'exprimait beaucoup, mais maintenant, beaucoup moins. Hein? Au point que, bon, Chacun dit qu'il a entendu, mais le problème c'est que c'est pas clair et chacun justement dit qu'il a entendu. Parce qu'il commente beaucoup, si vous voulez, la Bible. C'est quelque chose qui l'intéresse énormément, l'État hébreu, c'est-à-dire un État théocratique. Ce serait pas mal, un État théocratique. Ce serait pas mal si c'était Dieu qui commandait. Mais le problème, c'est ça, quoi. C'est qu'on n'a pas de signes. Dieu n'émet plus de signes dans l'univers. Ben oui, c'est ça. Il n'y a plus de signes de la divinité. Et par conséquent, si vous voulez, cette divinité, en un sens, il faut la construire. C'est pour ça que Hobbes parle du Léviathan, qui est un terme biblique, qui désigne un monstre dans la Bible, hein, qui mange tous les poissons, hein, dans l'océan. C'est pour ça que Hobbes parle du Léviathan comme mortal god, un dieu mortel. Hein, c'est un dieu mortel, car il sait bien que ça périra. Mais ça a quand même la fonction d'un dieu, c'est-à-dire de quelque chose, de quelqu'un, d'une force, d'une puissance qui est très au-dessus de celle des hommes. Donc, en un sens, il faut se féliciter de ce que les hommes, enfoncés dans leur individualité et leur égoïsme, aient malgré tout trouvé une solution pour en sortir. Pour en sortir et pour construire une puissance incomparable avec la puissance singulière qui est la nôtre de chacun. Une puissance qui est celle de l'État. Au fond, c'est la première théorie de l'État moderne, c'est-à-dire d'un État fort, d'un État souverain, d'un État qui gouverne la société. Et pas d'un État qui la gère, la société. Non, qui la gouverne. Vous voyez ? Donc, l'idée, je crois, essentielle autour de laquelle on tourne et qui a eu tellement de mal à être accepté, d'ailleurs elle n'a pas été, mais qui est celle l'idée de Hobbes, c'est que le contrat social, il n'utilise pas ce terme, mais ça fait rien, il utilise le terme de pacte plutôt que de contrat. Le pacte social n'est pas une entente entre ceux qui obéissent et ceux qui commandent. C'est une entente entre ceux qui vont obéir. Une entente pour obéir. Une promesse. C'est la promesse d'obéir. Mais vous voyez, on ne donne pas ça en échange de quelque chose. On donne ça parce qu'on ne peut pas faire mieux, on ne peut pas faire autrement. Et par conséquent, l'homme qui sera choisi pour exercer la souveraineté parmi nous, peu importe ce qu'il est, peu importe qu'il soit un imbécile, si vous voulez, enfin, s'il vaut mieux pas, mais ce n'est pas sur ce critère qu'il va être choisi. D'ailleurs, est-ce qu'il va être choisi ? C'est même pas sûr. Mais peu importe. En tout cas, s'il est choisi, il ne sera pas choisi avec une sorte de cahier des charges. On ne va pas lui dire, tu vas avoir le pouvoir, un pouvoir souverain, le pouvoir politique, mais tu auras des devoirs vis-à-vis de nous. Ah non. Le souverain, si vous voulez, l'homme qui va exercer la souveraineté, va se trouver, en un sens, dans la situation où nous sommes tous, quand nous sommes dans l'état de nature. En un sens, si vous voulez, le souverain, ce sera le seul à ne pas céder son droit naturel. Et donc, vous voyez comment la solution de Hobbes, elle est extraordinairement économique, elle est analytique, elle suppose aucun élément supérieur à l'équation de base. Donc, c'est un transfert de mouvement, d'une certaine manière. Et du coup, le souverain, ayant, au fond, gardant son droit naturel, c'est-à-dire la liberté de faire ce qui lui plaît, qui n'est limité par rien d'autre que par sa propre puissance, se trouve donc dans la situation d'un individu effectivement beaucoup plus fort que tous les autres individus et susceptible de les faire obéir. Voilà en gros le schéma. Voilà en gros le schéma, si vous voulez, à laquelle, hein, donc chose essentielle, contrat d'assujettissement, et non pas contrat d'association. Bon. Alors, je vous ai dit quand même que j'essaierai de vous lire, bon, ben là déjà c'est fini, celui-là. Celui-là aussi. Ah oui, alors là, ça il faut quand même que j'en parle. Je ne sais plus dans quel... bon, j'en suis déjà là. Bon. Voilà, il faut que je parle de ça. Parce que ça, c'est une des trouvailles à la fois les plus... les plus tordues, si vous voulez, et les plus nouvelles de Hobbes. C'est la question de la représentation. Alors, je ne vais pas m'étendre sur cette question, que je trouve une question absolument passionnante, mais je vais en dire quand même juste quelques mots. Je remonte un tout petit peu plus haut dans l'histoire de la pensée politique, c'est-à-dire au grand modèle de tous ceux qui écrivent sur la politique, c'est-à-dire Grotius, à l'époque de Hobbes. Grotius, c'est un Hollandais, comme son nom ne l'indique pas. Il s'appelle en fait Hugo de Grotte, mais comme tous les noms sont latinisés à l'époque, il s'appelle Grotius. On l'appelle Grotius. Mais c'est Hugo de Grotte, et qui a écrit un ouvrage magistral sur le droit de la paix et de la guerre, qui sert encore aujourd'hui dans les facultés de droit à expliquer les fondements du droit international, le droit des gens, etc. etc. Bon. Alors, l'idée de. Enfin, un des concepts centraux, de Grotius, mais comme au fond des antécédents, c'est le concept de peuple. C'est l'idée que on forme un peuple. C'est pour ça que je ne vous ai rien dit en ce qui concerne l'état de nature. Mais au fond, vous auriez pu peut-être que d'ailleurs vous y avez pensé, me dire comment au fond on peut être une sorte de poussière d'individus comme ça, une sorte de. C'est même pas une assemblée, c'est une sorte d'agrégation, une sorte de pulvérisation individuelle comme ça. Au fond, est-ce qu'on ne forme pas tous, où qu'on soit, un peuple, une nation, une population, même une population, même si on ne va pas sur le peuple. Bon, c'est-à-dire c'est ça, c'est au fond, est-ce qu'on peut ramener les hommes à un état individuel? Est-ce que les hommes ne font pas toujours partie d'un peuple? Est-ce que la notion de peuple n'est pas la notion originaire? C'est de celle-là qu'il faut partir, c'est de celle-là que part Grotius. C'est pas de celle-là que part Hobbes, il part de l'individu. Alors, voilà la question. Comment un ensemble d'individus devient-il un ensemble, oui, devient-il, bon, un peuple, c'est-à-dire finalement une seule chose, une seule entité. Comment le multiple, c'est vieux problème ontologique, comment le multiple devient un? C'est le problème de Hobbes aussi. Donc comment la multiplicité d'individus que nous sommes allons former une société, un peuple, une nation, appelez ça comme vous voulez. Et la solution de Hobbes est celle-ci. Et c'est une solution qu'il emprunte au droit privé. Ce n'est pas du tout une solution de droit public. Et consiste à dire que partout où on a affaire à une collectivité, la collectivité, l'être collectif, qui est un être abstrait, ne peut pas être présent lors d'une délibération, d'un contrat, d'une discussion. Et par conséquent, s'il ne peut pas être présent, il faut qu'il soit représenté par quelqu'un. La représentation, ce n'est pas comme une présence, mais c'est le substitut d'une impossible présence. Le peuple ne peut pas être présent. Enfin, laissons le peuple. Un hôpital ne peut pas être présent dans une négociation. Donc, qui le représente? Le directeur de l'hôpital. Une église ne peut pas être présente en tant que corps collectif. Donc, qui va là? Le vicaire, le chanoine, je ne sais pas quoi, bon, l'évêque, qui va la représenter, etc., etc. Au fond, si vous voulez, la fonction de celui qui dirige, c'est pas tant de diriger que de représenter ceux qu'il dirige. Vous voyez, ce n'est pas une philosophie du pouvoir absolu ou de l'ivresse du pouvoir, non. C'est une philosophie juridique. Et Hobbes prend son modèle, si vous voulez, au fond, dans, vous voyez bien, dans le droit de la corporation, dans le droit, droit civil, si vous voulez, dans le droit civil. La différence entre personne morale et personne physique. Voilà, c'est la différence entre personne morale et personne physique. Le problème, c'est qu'on ne peut pas négocier avec une personne morale. Il faut une personne physique, mais ce n'est pas elle avec qui je négocie, c'est elle en tant qu'elle représente la personne morale. Eh bien, Hobbes va appliquer ce schéma, justement, au peuple et au souverain. C'est-à-dire, il va dire, à quel moment formons-nous un peuple? À quel moment sommes-nous un peuple? Est-ce qu'on est un peuple et on va chercher quelqu'un qui va nous représenter? Ou est-ce que c'est parce que quelqu'un a le droit de nous représenter que soudain nous devenons une entité, une unité? Vous voyez? Autrement dit, le peuple n'existe que représenté par celui qui le dirige. Il n'existe pas par lui-même. Et ça, c'est une solution géniale de Hobbes. C'est génial pourquoi? Parce qu'à aucun moment vous allez pouvoir dire au souverain, dehors, dégage, hein, comme on a quelquefois entendu, hein, le peuple ne veut plus de toi. Parce que le souverain de Hobbes se tournerait vers le peuple et dirait, mais qu'est-ce que tu es sans moi? Est-ce que tu existes sans moi? Moi, souverain. Toi, peuple, est-ce que tu existes sans moi? Non, tu n'existes que d'être représenté par moi, que par la fonction de représentation que j'exerce. Et Hobbes fait ici, extrêmement habilement, ça c'est un chapitre magnifique, c'est le chapitre 16, mais extrêmement difficile, très court, contrairement à la plupart des chapitres de Hobbes, parce que c'est un auteur très prolixe, le chapitre 16, c'est quelques pages, et c'est pourtant la pierre de touche du Léviathan, c'est la charnière du Léviathan. Il fait appel au vocabulaire du théâtre. Il dit, qu'est-ce que c'est qu'un acteur? C'est quelqu'un qui ne joue pas son propre rôle, mais qui joue le rôle que quelqu'un d'autre lui a demandé de jouer, enfin, l'a commis à jouer. Et ce quelqu'un d'autre, il s'appelle un auteur. Bon, laissons le metteur en scène, on s'en fiche. Hein. L'auteur, c'est l'auteur qui a créé... Non, c'est l'auteur. L'auteur, auteur, ça veut dire, un auteur, c'est celui qui autorise. C'est celui qui donne une autorisation. Étymologiquement, c'est ça, auteur. Hein. C'est celui qui a l'autorité de faire quelque chose. Donc, qui est autorisé à faire quelque chose. C'est ça, l'auteur. Et l'acteur, il n'agit qu'en étant autorisé à agir. Hein. Il n'agit pas par son propre mouvement. Il n'agit pas en tant que personne indépendante, propre. Non, il agit, si vous voulez, sur la délégation, sur la commission de celui qui lui a donné ce rôle. Hein. Vous voyez? Eh bien, très subtilement, Hobbes ramène la situation politique à la situation de l'acteur et de l'auteur, c'est-à-dire de la scène de théâtre, du jeu. Il dit, au fond, le souverain, c'est pas un auteur, c'est un acteur. Mais il joue le rôle de qui? Pas le sien. Il joue le rôle de ceux qu'il représente sur la scène, c'est-à-dire de nous. Donc nous, ouais, on s'en sort quand même bien hein, dans l'histoire, mais je suis pas sûr que ce soit très bien. Nous, au fond, nous sommes les auteurs de l'État, de la société, et le souverain est l'acteur de cela. Mais le problème, si vous voulez, c'est que l'acteur, il n'y a que l'acteur sur la scène. C'est pas l'auteur. L'auteur, il est dans les coulisses, il est dehors, il est je sais pas où, hein, mais il n'est pas là. Et donc, si vous voulez, vous voyez l'analogie entre le peuple et le souverain, l'acteur et l'auteur. Le peuple, en tant qu'individu, nous sommes les auteurs d'actes que le souverain fait comme acteur. Alors, il y a une petite conséquence, qui est évidemment celle que recherche Hobbes là-dedans. C'est qu'au fond, quand le souverain agit, il n'agit pas pour son propre compte, il n'agit pas, si vous voulez, sponte sua, comme disent les Romains, hein. Il agit mandaté d'une certaine manière par nous. Il agit en notre nom. Hein? Puisque finalement, il est mis là pour nous protéger, ou il est là pour nous gouverner et on lui a donné tout le pouvoir. Parce que on lui a laissé tout le pouvoir. Parce que justement, c'est la meilleure manière d'être protégé. C'est qu'au fond, il n'y ait plus de lutte, il n'y ait plus de guerre pour le pouvoir, qu'il n'y ait plus de clans, plus de conflits. C'est ça la solution de Hobbes. Bon, mais alors, l'habileté de Hobbes, c'est de dire que finalement, tout ce que fait le souverain, il le fait en notre nom. Et donc, si un jour vous allez dire au souverain, mais ça ne va pas du tout ça, hein, cette guerre que tu as déclarée, ces impôts que tu prélèves, il va dire, mais moi, c'est en votre nom que je fais ça. Donc c'est vous qui le faites à travers moi. Donc vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne savez pas ce que vous dites. Hein. Vous donnez un droit et ensuite vous dites ah, non, il ne faut pas utiliser ce droit. Soit vous me donnez le droit de faire ce que je veux, soit vous ne me le donnez pas. Mais il n'y a pas de milieu. Et par conséquent, quand ce souverain vous dit d'aller vous faire tuer dans un combat où vous êtes sûr d'aller vous faire tuer, hein, vous n'allez pas lui dire « Ah ben non, ça c'est pas possible. Ça j'y vais pas. On n'est plus d'accord. » Il va pas vous dire « Je t'ai pas demandé si tu es d'accord ou pas. C'est moi qui commande. Mais je commande en ton nom. Donc en fait, c'est toi qui commandes. » Vous voyez, c'est le roman de la démocratie qui se met en place là. Nous commandons tous, mais sous une forme qui est quand même très proche de celle de l'obéissance. Vous voyez, c'est un peu dialectique, quoi. Voilà, c'est comme ça. Donc l'essentiel, si vous voulez, c'est de savoir que nous sommes les auteurs des actes que fait le souverain. Et ce savoir, loin de limiter les actes du souverain, au contraire, les rend absolument, c'est une sorte d'absolution. Voilà, c'est une sorte d'absolution. Autrement dit, nous donnons à tout moment l'absolution au souverain pour tous les actes qu'il commettra. Et c'est complètement juridique. C'est pas du tout violent ni quoi que ce soit. C'est une situation parfaitement juridique. Et voilà la phrase que je voulais vous lire du chapitre 16. Voilà. Il y a quatre lignes. Une multitude d'hommes. Il faut que je m'arrête peut-être, hein. Une multitude d'hommes devient une seule personne quand ces hommes sont représentés par un seul homme ou une seule personne. Je ne peux pas trop revenir là-dessus, mais homme et personne, ce n'est pas la même chose. Hein. C'est-à-dire que homme, c'est un être réel, personne, c'est un être moral. Voilà ce qu'il veut dire, c'est tout. De telle sorte que cela se fasse avec le consentement de chaque individu singulier de cette multitude. Car c'est l'unité de celui qui représente, et non l'unité du représenté, qui rend une la personne. Et c'est celui qui représente qui assume la personnalité, qui assume la personne, personne, la personnalité c'est un terme français, c'est personne, dit l'anglais, et il n'en assume qu'une seule. Et il ajoute, on ne saurait concevoir l'unité dans une multitude sous une autre forme. Autrement dit, si vous voulez, le privilège ontologique du multiple, c'est-à-dire de l'être commun, le peuple, la nation, voire l'humanité, qui est quelque chose, si vous voulez, qui semble être d'une grande transparence et d'une grande valeur pour tout le monde, ou en tout cas pour beaucoup de gens, tombe complètement ici. La seule réalité ontologique, c'est celle de l'individu. C'est celle de l'être singulier que nous sommes chacun. Tous les collectifs, toutes les communautés, toutes les... sont des abstractions pour Hobbes. Sont des êtres juridiques. Un peuple, c'est un être juridique. Ce n'est pas un être de chair et de sang, comme chacun d'entre nous. Et par conséquent, quand on dit « le peuple veut » ou « le peuple ne voudra pas », vous savez, avec des grandes déclamations rousseauistes et la révolution, etc., au fond, pour Hobbes, on dit des âneries. Mais on dit des âneries qui ne sont pas innocentes. Ce n'est pas simplement qu'on se trompe, ce n'est pas une erreur. Hein. C'est que, d'une certaine manière, on cherche à saper, justement, le fondement du pouvoir. Fondement du pouvoir qui est justement la cession par chacun de son droit naturel et par conséquent l'exercice non régulé, non limité par le souverain de ce même droit naturel qu'il ne cède pas, puisque justement qu'il n'a pas à céder parce qu'il n'a pas fait de contrat avec nous. Ni même à limiter, il n'a pas fait de contrat avec nous. Donc, c'est pour ça, si vous voulez, que le pouvoir du souverain est un pouvoir absolu. Je voudrais vous lire encore un petit texte là-dessus. C'est au chapitre 17, c'est le chapitre d'après, ben, j'avais noté d'ailleurs. Là. Voilà. Et puis je m'arrêterai. La seule façon, dit-il, d'ériger un tel pouvoir commun, c'est le Commonwealth, hein. Bon. La seule façon d'ériger un pouvoir commun, apte à défendre les gens de l'attaque des étrangers et des torts qu'ils pourraient se faire les uns aux autres, et ainsi à les protéger de telle sorte que par leur industrie et par les productions de la terre, ils puissent se nourrir et vivre satisfaits, c'est la seule façon d'ériger un pouvoir souverain, un pouvoir commun. C'est de confier tout leur pouvoir et toute leur force à un seul homme ou à une seule assemblée, qui puisse réduire toutes les volontés par la règle de la majorité en une seule volonté. Cela revient à dire désigner un homme ou une assemblée pour assumer leur personnalité, et que chacun s'avoue et se reconnaisse comme l'auteur de tout ce qu'aura fait ou fait faire quant aux choses qui concernent la paix et la sécurité commune, celui qui a ainsi assumé leur personnalité. Que chacun par conséquent soumette sa volonté et son jugement, c'est pas que je garde mon jugement pour moi, hein, soumette sa volonté et son jugement à la volonté et au jugement de cet homme ou de cette assemblée. Cela va plus loin que le consensus ou la concorde. Il s'agit d'une unité réelle, de tous en une seule et même personne. De telle sorte que c'est comme si chacun disait à chacun: j'autorise cet homme ou cette assemblée, je lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même, à cette condition que tu lui abandonnes ton droit et que tu autorises toutes ses actions de la même manière. Cela fait la multitude, cela fait, ça veut dire ça une fois fait, la multitude ainsi unie en une seule personne est appelée une république, en latin civitas. Telle est la génération de ce grand Léviathan, donc de ce monstre, hein. Vous voyez, ce n'est pas du tout une idéalisation de l'État. Hein. C'est un monstre. Mais c'est un monstre qui nous protège de notre propre monstruosité, si vous voulez. Comme c'est un monstre commun, on a moins à le redouter qu'à redouter nos monstruosités particulières. Voilà. Encore une fois, je vous l'ai dit en commençant, ce n'est pas un idéaliste. Ça veut dire que c'est un moindre mal. Ça ne veut pas dire que c'est un bien, l'État ou le pouvoir. C'est un moindre mal. Il n'y a aucune divinisation, il n'y a aucune idéalisation du pouvoir chez Hobbes, au contraire. Ou plutôt, dit-il, pour en parler avec plus de révérence, de ce Dieu mortel auquel nous devons, sous le Dieu immortel, quand même, bon, notre paix et notre protection, etc., etc. C'est la fin du chapitre 17, dans le Léviathan. Voilà. Alors, je vais quand même m'arrêter, mais avant, je voudrais quand même peut-être, comme j'ai quand même pas forcément, servi la cause de Hobbes, c'est-à-dire, j'ai pas atténué le tableau. J'ai au contraire cherché à en montrer les arêtes, hein, les côtés vifs, parce que c'est extraordinairement tranchant. C'est ça qui est très beau d'ailleurs chez Hobbes. C'est le caractère tranchant de la pensée. C'est pas une pensée qui louvoie, qui oscille, qui relativise, qui problématise, qui interroge à perte de vue. Non, ça va, il y a une solution. Je vous ai dit, il a voulu être le Galilée de la politique. Donc il a voulu trouver des lois, en un sens. Alors, pour atténuer un peu ce tableau, qui est un tableau, je reconnais, extrêmement, une esquisse, hein, mais qui est un tableau, extrêmement menaçant, et c'est comme ça que Hobbes est resté dans la tradition. Je voudrais quand même ajouter ceci, en guise de réflexion, de discussion, de ce que vous voulez, mais aussi de modération de ce que j'ai dit, c'est que, d'une certaine manière, pour Hobbes, cette contrainte qu'est l'État, contrainte absolue, règle absolue, suivie de punition, hein, parce que là où il n'y a pas le glaive, il n'y a pas de. Les paroles sont des mots, les paroles ne sont que des mots, hein, c'est sans. Without sword, et, il fait un jeu de mots si vous voulez, without sword, sans le glaive, sans. Les lois ne sont que words, hein, c'est des mots. Hein, voilà, il n'y a de loi que s'il y a un glaive pour les faire respecter. On peut bien dire qu'il y a des lois de la nature, mais quand les lois ont leur office de loi, quand quelqu'un peut sanctionner leur transgression. Sinon, ce n'est pas des lois, c'est des conseils, c'est tout ce qu'on veut. C'est des belles pensées, mais ce n'est pas des lois. Alors, enfin, ça a pour but, cette sorte de structure extraordinairement forte de l'État, on ne peut pas plus, hein, a pour but, d'une certaine manière, de rendre possible une société humaine relativement libre. Libre au sens où chacun peut s'occuper de ses affaires, de se cultiver, de s'enrichir, ça c'est important, de s'enrichir, de se développer, etc. Autrement dit, si vous voulez, on a souvent dit, Hobbes c'est le totalitarisme, Locke c'est le libéralisme. Non, d'une certaine manière, Hobbes c'est aussi le libéralisme. Et c'est le libéralisme pourquoi ? Parce que l'État est cantonné en un sens à une fonction de police. L'État, au fond, c'est celui qui fait la police, qui fait respecter la loi. Mais c'est pas celui qui fait marcher la société. La société, elle marche toute seule. Justement, en raison du caractère individuel de tous les éléments qui la composent. Nous sommes tous, nous restons tous des individus. Chacun avec ses défauts et ses qualités, chacun avec ses ambitions, chacun avec ses... Et voilà, mais justement, il n'y a que dans la société qu'on peut se réaliser. C'est-à-dire qu'on peut poursuivre l'accroissement de nos richesses, de notre savoir, de notre bonheur, même si ce bonheur n'est rien d'absolu. Hein, c'est simplement le fait de passer d'un désir à un autre. C'est ça la vie humaine pour Hobbes. C'est la course d'un bien à un autre. Et c'est une course qui ne finit qu'avec la mort. C'est pas une fin, c'est exit, c'est tout. Hein. C'est ça s'arrête. C'est pas une conclusion. Hein, c'est une interruption. Voilà, il n'y a pas de fin ultime dans la vie humaine. Il n'y a qu'une fin temporelle. Et donc, en un sens, l'homme de Hobbes, c'est un homme qui cherche absolument à profiter d'une vie dont il sait que il va être séparé. Et en un sens, on pourrait se demander si c'est pas parce qu'il cherche à profiter de la vie le plus possible, à jouir de cette vie dont il connaît le caractère éphémère et extraordinairement... contingent, bon, il ne cherche pas justement un État ou des structures juridiques qui rendent possible cet épanouissement individuel. Hein, tout se passe comme si, au fond, seule la force de l'État peut permettre aux individus de se développer librement. Je ne dis pas harmonieusement, ce n'est pas tellement un concept de Hobbes, mais de se développer, c'est-à-dire finalement d'aller au bout de ses désirs. Car au fond, il n'y a que le désir qui nous meut. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas d'autre force humaine que le désir. Enfin, en nous, si vous voulez, que le désir. C'est ça le mouvement animal, c'est le désir. Et l'homme est un être de désir, au pluriel, c'est-à-dire nous ne cessons pas de désirer quelque chose. Et c'est ça, vivre. Vivre, ce n'est pas... Comme dirait Aristote, être dans un champ et y rester. Vivre, c'est toujours chercher à acquérir quelque chose d'autre. C'est toujours avoir du mouvement pour aller plus loin. C'est toujours viser autre chose que le présent. Eh bien, vous voyez, ce souci de l'avenir, qu'on peut appeler une inquiétude, ce souci de l'avenir qui rend l'homme tellement actif, industrieux, travailleur, etc. Au fond, ce souci de l'avenir... est aussi ce qui rend, d'une certaine manière, l'individu hobbesien très soucieux, justement, de sa garantie de cet avenir. Hein? On entend souvent dire, les gens, l'avenir, on est dans un avenir indéterminé. Oui, mais ben, s'il n'était pas indéterminé, ce ne serait pas un avenir. Hein? C'est par définition que l'avenir est indéterminé ou incertain. Hein? Si l'avenir est certain, ce n'est pas un avenir, c'est un présent. Donc, par définition, l'avenir est incertain. Eh bien, en un sens, c'est cette incertitude quant au déploiement de la vie humaine, c'est cette incertitude que l'État, je ne dis pas annule, mais que l'État, si vous voulez, ou que l'existence d'un État fort permet, d'une certaine manière, d'entrevoir avec une certaine confiance ou une certaine positivité. Donc, en un sens, si vous voulez, le but de Hobbes, ce n'est pas de transformer les hommes. C'est de faire en sorte qu'ils vivent à leur idée, chacun. Mais que tous puissent vivre ensemble, chacun à son idée. Hein? Autrement dit, que le fait que chacun vive à son idée ne soit pas pour l'autre l'impossibilité de vivre à son idée. Comment rendre possible le fait que chacun vive à son idée ? Une seule solution, l'État. Voilà, je vous remercie.
Bravo pour ce magistral exposé. Donc, on passe aux questions-réponses.
Monsieur, ici.
Je crois que dans tout ce que vous avez dit sur la philosophie de Hobbes, finalement, il n'y a pas grand-chose à rajouter, mais il y a, à mon avis, un manque, et dans ce manque, c'est le côté non universel de cette idée. Je m'explique, si vous voulez, évidemment, il a vécu à une période où finalement l'expérience de l'économie mondiale n'existait pas, mais enfin maintenant on s'aperçoit que cette économie mondiale, elle présente des défauts et il faut trouver des systèmes anti-crise. Et finalement, un système anti-crise, finalement, ne se fera que si finalement on a des règles universelles. Et ces règles universelles sont absentes. Voilà. Alors, finalement, on a trouvé quelques règles universelles il y a une petite décennie, un petit siècle sur la paix dans le monde, mais il faut maintenant, à mon sens, qu'on trouve cette même règle au niveau de l'économie, parce que l'économie, c'est un élément important de cette philosophie. Et dans cette philosophie, oui. Elle est excellente, mais elle est limitée à un petit coin, et c'est un petit peu insuffisant si on n'a pas le côté universel. Voilà.
Merci de votre question. Alors, c'est un peu anachronique ce que vous dites quand même, parce que dans la situation où se trouve Hobbes, l'idée de règles universelles, c'est-à-dire de règles qui s'appliquent à tous les États, hein, est une idée strictement impensable pour les raisons qui ont été énoncées en début de cet exposé. C'est-à-dire, au fond, si chacun de nous est, lorsqu'il n'y a pas de droit, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de pouvoir susceptible de faire respecter le droit, si chacun de nous est dans un état de guerre un petit peu vis-à-vis de l'autre, ou en tout cas de menace et de guerre, eh bien, cette situation à laquelle met fin l'État, elle se reproduit au niveau des États. C'est-à-dire que les États sont entre eux dans l'état de nature. Pour la bonne raison, si vous voulez, qu'il n'y a pas d'instance supérieure à ces États. Et c'est le même problème aujourd'hui. Et donc, en un sens, aujourd'hui, si vous voulez, les gens qui s'opposent à l'idée d'une régulation internationale, de tribunaux internationaux, voire même de mondialisation, etc., ils utilisent des arguments hobbesiens. C'est-à-dire, c'est des arguments fondés sur la souveraineté, sur l'idée que l'État est le seul souverain et qu'il n'y a pas de super-souverain. Et s'il y a un super-souverain, on retombe dans un État unique. Mais ça, il n'y a pas de raison de s'y soumettre. Vous voyez, l'idée cosmopolitique, le droit cosmopolitique de Kant, hein, qui sera donc un siècle et demi après Hobbes, cette idée, si vous voulez, Kant la présente comme une sorte d'idéal de la raison, mais il ne la présente pas comme quelque chose qui peut être réalistement construit, etc., etc. Et j'ajoute que Kant est un lecteur très attentif de Hobbes. C'est-à-dire que son idée d'un État universel, etc., d'une certaine manière, c'est un contre-Hobbes. Ça s'inscrit, si vous voulez, dans son projet de faire un contre-Hobbes, c'est-à-dire de faire sortir d'une certaine manière les hommes et les États, parce que Hobbes a fait sortir les hommes de l'état de guerre, mais il n'a pas fait sortir les États de l'état de guerre. Or, la guerre est beaucoup plus une menace entre les États qu'une menace entre les individus. Mais c'est l'argument de Rousseau contre Hobbes. Et par conséquent, il faut une une législation en un sens international, etc. Bon, Hobbes vous dira, très bien, continuez à parler comme ça. Il répondrait, si vous voulez, comme Staline, à qui on faisait état de l'opposition du pape, à ses vues, il dit, le pape, combien de divisions? Voilà. C'est ça qu'il dirait. Il vous dirait, la force internationale, combien de divisions? On le voit bien, d'ailleurs, tous les jours. Regardez, quand il y a un État qui veut intervenir sans un autre État, etc. Bon, au fond, le problème, si vous voulez, c'est le problème de Hobbes. Mais au niveau des relations entre les États. Alors peut-être qu'un Hobbes va un jour résoudre le problème de l'état de nature entre les États, comme Hobbes a résolu le problème de l'état de nature entre les individus.
On l'invitera.
Je pense que vous n'aurez pas besoin de l'inviter, parce que c'est comme il aura le pouvoir souverain,
Voilà, il viendra de lui-même. Ouais. Bon, y a-t-il d'autres questions? Il n'y a pas de questions? Oui? Oui?
Ah, j'ai pas entendu. Oui, excusez-moi, j'ai eu un moment de...
Par rapport à l'esclavage?
Pas juridiquement. Ça n'existait pas juridiquement, non. Non, non.
Il faut remettre ça aussi dans le contexte de l'époque.
Non, hein. Ça n'existait pas juridiquement. Pour Hobbes, il n'y a que des individus qui ont des situations sociales évidemment différentes les unes des autres, mais il n'y a pas d'individus qui appartiennent en quelque sorte à un autre individu. Il n'y a pas encore les règles qui seront en application en Angleterre, notamment l'habeas corpus et tout ça, c'est à la fin du XVIIe siècle.
Voilà.
Mais malgré tout, la situation n'est pas une situation où il y a, comme chez Aristote ou comme chez les Grecs, des esclaves et puis des hommes libres. Non, il n'y a pas ça.
Je vais poser une question. Quand il a publié son livre, Les mauvaises langues, qui évidemment l'ont critiqué, puisqu'il a été très mal reçu, comme vous l'avez évoqué, on dit qu'il avait fait ce livre pour faire plaisir à Cromwell, puisqu'il est rentré au moment de la puissance maximale de Cromwell, deux ans après la décapitation de Charles Ier, en 1651. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Rien. C'est... Voilà.
Pourquoi pas? Mais est-ce que ça enlève de la force logique à ces arguments?
Oui.
Voilà. Bon, c'est à la limite, peu importe les motivations psychologiques des uns et des autres. L'important, si vous voulez, c'est ce qu'on fait. Quoi. C'est pas ce pourquoi on le fait ou ce qui nous a amené à le faire. C'est beaucoup plus.
Puisqu'on peut dire
l'armature, la cohérence logique.
Que Cromwell, d'une certaine manière, a matérialisé, avec tout ce qu'on en sait, le concept de Hobbes, au niveau du souverain absolu.
Oui, hein, et mais ça n'a pas duré longtemps. Hein.
Non, non, mais ça a duré le temps de Cromwell.
Ouais.
Pour
Hobbes, donc, ça ne marche pas.
Ça marche pas.
Il faut que le pouvoir dure le plus longtemps possible. Alors, c'est mortel, mais c'est quand même... il faut que ce soit, justement... C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ce soit fait en sorte qu'il n'y ait pas... la possibilité pour des ligues, un peu comme en France, la Fronde.
C'est tout à fait contemporain. Exemple, la Fronde, c'est exactement la même époque.
C'est un exemple traumatisant pour tous ces gens-là. Ouais. C'est un exemple traumatisant, c'est-à-dire on voit le pouvoir se démembrer sous l'effet de factions, sous l'effet de groupes. C'est ça qu'ils cherchent. Alors, au fond, la question de l'unité, c'est une question vitale pour eux. C'est pas comme chez nous où la question de la pluralité nous paraît beaucoup plus importante que celle de l'unité, mais peut-être parce qu'on a l'unité.
Hein? Bien.
C'est un luxe.
Alors, je vais conclure. Et je sens qu'il a envie de poser une question. Non. Là, je le vois qui trépigne. Oui, oui. Oui, oui. 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 Comment expliquer le choix du souverain?
Il pose pas cette question. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que la plupart des traités politiques sont entièrement consacrés à la question du choix du gouvernement, du gouvernant, alors que le traité de Hobbes est un traité de géométrie.
Voilà. C'est-à-dire, le souverain existe.
Vous savez jamais quel est le nom de celui qui a trouvé le triangle ou qui a démontré ça. Ça. Vous avez la démonstration, c'est tout. Il n'y a pas de...
Bien.
Le problème du choix, on l'a reproché, le problème du choix du gouvernant ne se pose pas.
Pour illustrer, donc, vous avez cité le contrat social, on aura un professeur de philosophie de Chambéry qui viendra nous parler du contrat social au printemps, donc qui est le contrepoint ou une autre vision. Comment ? Le contrat social est également, Michel Le Pilouer nous parlera des pensées, hein, donc c'est tout à fait contemporain de l'époque de Hobbes. Je rappelle que Hobbes, c'est le plus français des Anglais.
Il a vécu longtemps.
Beaucoup en France, puisqu'il a vécu dans son dernier séjour de 1640 à 1651. Ah, il a vécu 11 ans en France, et qu'il était un grand correspondant du père Mersenne, dont je vous parle à toutes les séances, qui a fait la correspondance entre tous ces penseurs de l'époque.
Voilà. Est-ce que vous me permettez d'ajouter juste un mot en direction de... En direction des élèves, parce que Sylvain Lagarde m'a dit que vous étudiez le contrat social, et donc ça tombe bien que quelqu'un vienne en parler. Écoutez, faites cette petite expérience. Regardez le contrat social, après ce que vous avez entendu de Hobbes, mais peut-être que Sylvain vous en a parlé aussi, sûrement même, voyez si vous ne pouvez pas trouver en négatif, en creux, la marque de Hobbes à toutes les pages du contrat social. Car au fond, le contrat social, c'est un essai de réfutation de la théorie de Hobbes. Et il est inintelligible si on ne part pas justement des conditions que Hobbes a établies.
Bien, eh bien, merci Monsieur Guénantia de cet exposé brillant.
Merci à vous.